semblait si lumineuse. C'est là que les événements vont s'assombrir.
Le début de la terreur.
La République commence à entrer dans la paranoïa. Elle craint deux choses. Le pouvoir du pape sur la France et le retour du roi. Imaginez que cette France d'en bas, qui a porté la Révolution et les bourgeois au pouvoir, se retourne finalement contre eux et fasse appel à ses curés ou à son bon roi Louis XVI. Donc, dès 1790, les députés votent la constitution civile du clergé.
Je comprends pas.
En gros, ils veulent faire de tous les membres de l'Église en France des fonctionnaires qui se soumettent à la constituante et non plus au Vatican. Bien évidemment, le pape refuse et les curés français suivent. Les messes sont interdites et les religieux pourchassés. Les paysans et les ruraux soutiennent leurs prêtres et commencent pour la première fois à s'opposer à la Révolution.
Pourquoi les gens des campagnes soutiennent les prêtres ?
L'Église est un vecteur d'intégration sociale. Le dimanche, on arrête le travail et on se voit à la messe. Idem pour les baptêmes, les mariages. Ça structure la vie. Dans la France rurale de 1700, sans internet et sans voiture, le sentiment d'appartenance à une communauté est très important pour survivre socialement.
C'est un peu le Facebook de l'époque.
Et le point de non-retour est franchi le 21 janvier 1793. Louis XVI est guillotiné. Au moins là, on est sûr qu'il ne pourra plus revenir demander son trône. On a une contestation latente qui macère depuis des années. Un peuple sans roi, accablé d'injustice et qui se trouve dans l'interdiction de pratiquer sa religion. La guerre civile est prête à éclater et déchaîner toutes les rancœurs accumulées.
Il suffit plus que d'une étincelle et tout explose.
Voilà ce qui arrive en mars 1793, lorsque la République appelle 300 000 hommes à se battre aux frontières. Donner son sang pour une République qui ne leur donne aucun droit ? Certainement pas. Des émeutes éclatent partout en France, vite matées. Sauf en Vendée, où les gardes républicaines ne parviennent plus à contenir la foule en délire.
Donc, les bourgeois se sont servis de la contestation des paysans et du bas-peuple pour déstabiliser la monarchie. Mais la République qu'ils ont mis en place n'a pas satisfait leurs attentes et même pire, a accentué leur misère.
Devant la levée des 300 000 hommes, en 1793, c'est tout le pays qui conteste. Mais le conflit s'enracine et dérive en guerre civile en Vendée. En fait, ce qui s'appelle Vendée, c'est le territoire qui borde le Sud-Loire entre Nantes et Angers et qui s'étend jusqu'à Fontenay-le-Comte. Le cœur du royaume indépendant qui est en train de se former, c'est Cholet, en plein Maine-et-Loire. Et si l'histoire l'a appelé Vendée, c'est parce que c'est le seul département à se situer entièrement au sud de la Loire. Et surtout, c'est le seul avec lequel il est possible de qualifier l'ennemi de Vendéen. C'est beaucoup plus dur en partant du mot de Maine-et-Loire ou de Loire inférieure. Bref, cette fois, c'est certain. En se retrouvant à la frontière entre royalistes et républicains, Mur et Rignier était en première ligne pendant la guerre de Vendée. Voilà qui donne l'idée à Clic-Clac de se rendre aux archives et d'aller voir son ami Monsieur Bertrand. Ça sera l'occasion de lui demander ce qu'il sait à propos de cette arche en béton. Et surtout d'obtenir plus d'informations sur ce qui s'est déroulé à La Roche le 26 juillet.
Les archives!
Le voilà devant une ancienne abbaye entièrement rénovée et qui abrite les précieux documents relatifs à l'histoire de la région. Il sonne à l'interphone et quelqu'un répond.
Ah, Clic-Clac! Qu'est-ce qui t'amène cette fois? Tu veux me montrer des nouvelles cartes postales de collection?
Non, c'est pour la Roche du Mur. Je suis allé là-bas, j'ai l'impression qu'il s'est passé plein de choses pendant la guerre de Vendée.
Ah oui, je vois. Tu veux parler du 26 juillet 1793, avec le commandant bourgeois et le bataillon des Lombards.
Le bataillon de quoi ?
Entre, je vais t'expliquer.
Clic-Clac pénètre dans le bâtiment. Pour rejoindre l'atelier de Monsieur Bertrand, il doit passer par la vieille bibliothèque. Il adore voir tous ces anciens livres d'époque qui racontent chacun des histoires. Au bout de la salle, il rencontre l'archiviste.
Il s'est passé quoi le 26 juillet 1793 ? Et pourquoi il y a eu un état-major au Ruau ?
Assieds-toi, je vais t'expliquer. Tu connais la guerre de Vendée ?
Oui.
Eh bien, pendant cette période, Angers, c'était comme une balle de ping-pong.
Comment ça ?
Un coup les royalistes s'en emparaient, un coup les républicains la reprenaient, un coup les royalistes s'en emparaient, un coup les républicains la reprenaient. Les Vendéens, c'était une armée éphémère de paysans. Et ils retournaient de suite à leurs travaux agricoles une fois le combat passé. Ce qui laissait l'occasion aux troupes de la République de reprendre la ville dès que les royalistes s'en allaient. Or, c'est ce qui s'est passé en juillet. Les républicains avaient récupéré Angers.
Mais les blancs voulaient les chasser.
Tu comprends vite, mon petit clic-clac. Les généraux ont désigné Bourgeois pour commander la troupe des Lombards qui devait garder la butte d'Érigny. Ce commandant Bourgeois a installé son état-major au Ruau, juste en bas de la butte, sur la route de Chalonne.
Et ensuite, il s'est passé quoi ?
Ensuite, les Vendéens sont arrivés par surprise au petit matin et ont coincé les bleus en haut de la butte. Mais ils ne les ont pas massacrés. Ils les ont acculés jusqu'au bord du précipice et les républicains ont été obligés de sauter dans le vide pour tenter de sauver leur peau.
Et 600 sont morts.
Ça, C'est ce que dit le monument, hein. Tu as regardé la date de construction ?
1889, je crois.
Oui, c'est-à-dire pour célébrer les 100 ans de la Révolution française. Donc 100 ans plus tard, les politiques de l'époque faisaient alors feu de tout bois pour honorer et porter haut les valeurs républicaines. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une rue du Commandant Bourgeois au Pont de Cé, par exemple. Quand il parle de 600 morts, 600, ce serait plutôt 88, hein, quand on regarde les rapports de l'armée à cette date. D'ailleurs, certains de ces rapports font même allusion à une fuite des Lombards devant l'ennemi. Il n'est pas possible d'établir avec certitude les faits et les chiffres. Tu sais, clic-clac, ce sont les vainqueurs qui font l'histoire.
Heureusement qu'il reste des traces physiques pour se rappeler qu'il s'est passé des choses. D'ailleurs, c'est quoi cette arche ?
Ça c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le 26 juillet et la guerre de Vendée. C'est la fondation d'une cabane industrielle qui fabriquait des balles de pistolet et qui était au-dessus du vide pour faire couler le plomb.
Donc en fait, à part l'état-major, il reste plus rien du 26 juillet.
Si, justement, il y a ce carnet qui est entré très récemment aux archives. C'est un habitant qui l'a retrouvé au Ruau. Je n'ai pas encore pris le temps de le lire, mais je te fais confiance pour en prendre soin et en apprendre un petit peu plus sur ce commandant bourgeois. C'était son carnet de bord.
Clic-clac ouvre donc le carnet poussiéreux, dont les pages sont jaunies par le temps, et commence à lire.
23 juillet 1793.
Angers est en état de siège et nous devons impérativement défendre le pont de Cé, le seul pont d'accès au nord du fleuve. Si les royalistes s'en emparent, Angers tombe. Voilà qu'il m'incombe la pire des missions, celle de commander le 8e bataillon des Lombards. L'ennemi s'approche, nos éclaireurs le voient. Il est partout dans les campagnes et remonte chaque village jusqu'à nous.
Il tourne la page et lit ce qui s'est passé pour Bourgeois le jour suivant.
24 juillet 1793. Nous voilà positionnés avec ma femme et notre enfant sur la butte des Rignées, dans une bâtisse du Ruau. Les généraux appellent ça votre état-major. Cet état-major égale à peine la valeur de ma troupe. Un amas de pierres collé contre la butte. 25 juillet 1793. Les Vendéens ont été vus dans les communes alentours et leur attaque pourrait bien nous surprendre pendant la nuit. J'ai rassemblé le bataillon et donné mes ordres. La troupe ne fait que boire et crier. J'ai demandé à des cavaliers de partir en éclairage. Je doute qu'ils le fassent. Décidément, ces hommes vont nous perdre. Que des recrutés des faubourgs parisiens, des vagabonds urbains.
Et vient enfin ce fameux jour du 26 qui va inscrire pour toujours l'histoire sur la roche de Mur.
26 juillet 1793. Un violent coup de canon brise la vitre et nous réveille. Les royalistes attaquent la butte. Je sors du Ruau pour prendre le commandement du bataillon, mais celui-ci se débande. En ordre, rassemblez-vous ! Ils ne tiraient aucun coup de feu pour retenir les coups de canon de la Vendée qui faisait face. Je revins alors chercher ma famille et nous n'eûmes pas d'autre choix que de sauter du promontoire afin d'échapper aux Vendéens. Quand au pied de la falaise, je retrouvais mes esprits, ce fut pour découvrir les corps désarticulés de mes proches, parmi les dépouilles des fuyards qui avaient déserté.
Clic-clac referme le vieux carnet. En retournant sur place avec sa bicyclette et son appareil photo, il place son œil sur l'objectif, un clic, puis un clac, et tourne la page de cette histoire pour en retrouver bientôt une autre.
Topette !
Radio G. www.radio-g.fr.
Once upon a time, I used to love my mom and my dad. Then my dad died. So it was a bad time. And my new drugs, it caused me fail at school, disturbing my heart deep in a world so cruel. I finally had love with the only girl. I nod in my bed. Should I cut this love? Was it desperate for seas? Strong like flowers on his grave. Hidden reasons, terrible truths. To be left is to die again.
was yet another slim man's taking chances with another girl. She could be in America, dancing on a patio. She's living it up in another dreary disco town. Isabel sleeping, I think my mate slept with you when you're in Portugal. Isabel sleeping, Isabel sleeping.